On va tout de suite se rendre à New York, retrouver notre ami Richard Châteauvert. Bonjour Richard.
Bonjour Paul. Vous vous souvenez, fin mars, je vous ai dit, est-ce que c'est pas le mois de mars le plus long que nous ayons jamais vu?
Exact. Oui, hein? Je me rappelle très
tout
bien.
Tout le monde se souvient du mois de mars, partout au monde. Ben, imaginez-vous où on en est ce matin. Ça fait même pas deux semaines que George Floyd a été tué littéralement par Derek Chauvin à Minneapolis. Et il y a des manifestations partout dans le monde. On va avoir la 12e journée de manifestations ici aux États-Unis. C'est vraiment, c'est un phénomène incroyable. Il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai couvert les manifestations à deux reprises cette semaine et j'étais étonné. C'est vraiment, je n'ai jamais vu ça. Le nombre de blancs d'asiatiques, c'est un mélange. Les blancs sont fortement majoritaires. C'est sûr que les noirs sont minoritaires dans ce pays, mais quand il y avait des manifestations il y a cinq ans, Black Lives Matter, à la suite de Colin Kaepernick qui avait posé le genou à terre, c'était majoritairement des noirs. Alors, ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai interrogé des gens et il y a une femme qui m'a dit nous sommes rendus au point où nous en avons vu assez. C'est parce que il y a l'équation dans cette affaire, c'est que tant qu'on réglera pas le problème des Noirs, ça va être l'ensemble des États-Unis qui va avoir cette tâche. Et cette tâche, elle touche tout le monde. Elle touche les Blancs. C'est la raison pour laquelle les Blancs manifestent aujourd'hui.
Mais
ils le savent.
En même temps, Richard, cela interpelle directement les forces de l'ordre. Ça va prendre du temps à changer. Ici, à Montréal, Sylvain Caron, le chef, le directeur du service, a promis que ça va changer dès le 8 juillet. Il a dit, nous aurons la toute première politique canadienne encadrant les interpellations que font les agents au quotidien. Mais imaginez-vous changer tout ça aux États-Unis, où c'est profondément enraciné, selon les corps de police, les shérifs, la garde nationale, enfin, tout ce qui représente l'autorité chez vous.
Et il faut pas oublier les syndicats de policiers
aussi,
Paul, parce que la raison pour laquelle rien n'avance, c'est que les syndicats de policiers, par exemple à Buffalo, sait que les 57
ben oui,
membres du groupe d'intervention ont démissionné en soutien aux deux qui ont été suspendus. Mais ça, c'est sous la pression du syndicat des policiers de Buffalo. C'est toujours le mur bleu du silence. C'est qu'on a, les syndicats de policiers refusent le changement. Et ce sont eux, parce qu'on a vu les directeurs des services de police à travers les États-Unis condamner ici Dermot Shea à New York, le commissaire a condamné. Il a reçu le frère de George Floyd. Il a condamné vraiment en termes non équivoques ce qui est arrivé à George Floyd. Le commissaire a même suspendu hier soir deux policiers de New York sans salaire. Les auditeurs qui suivent la situation de près se souviennent d'une vidéo il y a une semaine où un policier de New York avait projeté sans raison au sol très violemment une jeune femme. Ce policier a été suspendu sans salaire. Il y en a un autre qui avait rabattu le visage d'un manifestant. Il lui a vaporisé le visage de gaz poivre. Lui aussi a été suspendu. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a indiqué qu'il n'engagerait pas de poursuites judiciaires dans le cas d'infractions mineures comme rassemblement illicite ou trouble à l'ordre public.
Hier, le gouverneur Andrew Cuomo a commenté ce qui a été évidemment diffusé partout à travers le monde, là. Cette personne aînée de 75 ans qui reçoit une poussée, qui trébuche et qui se blesse sans l'intervention des policiers. Il a commenté directement,
oui,
Andrew Cuomo, ce qu'il a vu lui aussi.
Il a dit que c'était totalement injustifié. Ça m'a fait mal aux tripes. Il a dit que le maire Byron Brown, qui est afro-américain, le maire de Buffalo, je le souligne, il a dit que le maire devrait obtenir le congédiement des policiers. Mais là, évidemment, il y a des syndicats, il y a des conventions collectives.
Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, que les autres policiers non suspendus sont venus immédiatement appuyer leurs camarades.
Parce que 57, écoutez, c'est innommable ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, j'ai vu une entrevue du maire de Buffalo qui a dit que il y avait, en fait, ils suivaient les ordres. Ils sont pas censés arrêter. Lorsqu'ils forment un cordon, ils sont censés continuer. Mais il y avait parmi les policiers un personnel soignant qui s'est occupé.
Mais on a vu un policier, celui qui est à la gauche là, de celui qui a donné la poussée, qui se retourne, voit l'état quand même assez grave parce que la victime saignait assez abondamment d'ailleurs. Il semble vouloir venir intervenir et l'autre à sa droite lui dit, non, on continue.
On continue.
On s'occupe pas de ça.
Mais ça, c'est le réflexe automatique.
Mais par contre, il avise via son microphone qu'on a besoin d'une assistance médicale.
Effectivement, et l'homme, je suis en train de défendre les policiers, l'homme a reçu une assistance médicale, mais ça, c'est le genre de vidéo que ces policiers-là vont regarder dans 10 ans et ils vont vraiment avoir honte. Et ils devraient, c'est à ça qu'ils devraient penser aujourd'hui. De quoi je vais avoir l'air dans 10 ans devant mes enfants et ma famille avec cette vidéo? Il faut que je vous raconte rapidement, Paul, des informations qui ne circulent pas sur le plan national et que vous n'avez peut-être pas vu. Ici, à New York, mardi, il y a un homme du nom de Frank Cavalluzzi, 54 ans, qui a été évidemment filmé avec un téléphone. Il avait sur la main droite 4 lames. Il avait fabriqué une espèce d'appareil. Il y avait 4 lames parallèles, un peu comme Johnny Depp dans le film Edward Scissorhands, aux mains d'argent. Je vous jure, allez voir la vidéo. Et il a poursuivi des manifestants Black Lives Matter. À un moment donné, il est dans son véhicule utilitaire sport et il fonce sur eux. Alors lui, finalement, il a été retracé, il a été incarcéré, il est accusé de mise en danger d'autrui et même de tentative de meurtre. Il y a une autre situation qui s'est produite au Maryland. Lundi dernier, il y a un homme de 60 ans, très bien, sur sa belle bicyclette, qui a bousculé 3 adolescents. Âgés de 18 et 19 ans qui posaient des feuillets appelant à une action communautaire. Et là, ça a été évidemment encore une fois filmé avec un téléphone. Des centaines de personnes ont contacté la police. La vidéo a été vue 29 millions de fois sur Twitter. Et cet homme qui est âgé de 60 ans s'est livré à la police. Et là, il est absolument pris de remords. Paul. Il est pris de remords. Il dit qu'il va faire de la thérapie pour examiner son comportement odieux. Alors, le racisme, c'est un abcès. Mais ici, bien évidemment, c'est le péché originel du pays. Ça a commencé en 1609, l'importation des premiers esclaves, ça fait longtemps. Et c'est parce que c'est dans l'âme du pays, c'est dans la Constitution.
Ça a provoqué la guerre qui a tué le plus grand nombre d'Américains, la guerre de sécession.
On est rendu, les historiens, ils disent 700 000 personnes
au
qui
moins,
ont perdu la vie.
Au moins, parce que dans les deux camps, militairement, parce qu'il y a des civils qui sont morts aussi, mais pendant 4 ans, la guerre la plus meurtrière pour les États-Unis a été la guerre de sécession. Et pendant 4 ans, on s'est battu fondamentalement sur... j'allais dire une divergence de point de vue. C'est évidemment pas assez fort comme terme, mais c'était ça finalement. Les 11 États confédérés du Sud voulaient garder l'esclavage.
Parce que la guerre, c'est de 1861-1865, et je vous souligne que dans les États du Nord, ici dans l'État de New York, l'esclavage a été interdit à partir de 1827. Donc c'est longtemps avant. Il y avait une attitude complètement différente à l'égard de l'esclavage. Il y avait des mouvements anti-esclavagistes ici, mais on parle de ça, puis on a des situations incroyables. Drew Brees qui s'excuse à 2 reprises.
C'est le camp arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans.
Des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et là, qui s'oppose au président Trump, c'est vraiment un abcès. Enfin, j'espère qu'on est en train de le crever. Mais encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est très beau manifester. Je vois ces jeunes, ils sont magnifiques quand ils manifestent, mais qu'est-ce qui va ressortir? Il faut qu'il y ait des changements. Et ici, le gouverneur Cuomo, il faut que je le souligne, a présenté des mesures vraiment précises et pratiques qui vont faire l'objet d'un projet de loi. On va forcer la publication des dossiers disciplinaires des policiers. On va interdire cette technique d'étranglement. Et écoutez bien, on va interdire, on va classer comme crime de haine ces signalements à la police, ces faux signalements comme celle de la jeune femme dans Central Park le jour même de la mort de George
Avec son
Floyd.
Chien, là,
Avec
sans
son
laisse.
Chien. Ça, c'est vraiment très important. Ça a déjà été fait dans d'autres États parce que c'est ça qui est important. Je veux dire, manifester. Les jeunes ici manifestent, ils se sentent bien, mais selon moi, ce qu'ils devraient faire, c'est aller s'inscrire pour voter. Parce qu'ici, on s'inscrit, hein. C'est pas l'État qui vient nous chercher par la main, comme au Québec. Il faut vraiment faire la démarche soi-même pour voter.
Mais vous voyez, il se prépare une manifestation demain à 11 heures. Il y a eu une main tendue par le directeur du service de police de la ville de Montréal, Sylvain Caron, qui avait accepté l'invitation des organisateurs à participer à la manifestation. Et là, j'ai devant moi le texte qui a été envoyé pour retirer cette invitation demain. On dit du côté du SPVM que c'était un geste d'ouverture, empreint de bonnes intentions, mais qu'on respecte cette décision. Mais vous voyez que partout dans le monde, en ce moment, on manifeste à Londres, il y a des milliers de personnes. Et dans tout ça, en terminant, Richard Jadovert, on ne parle plus beaucoup de la pandémie, de la transmission, de la distanciation et de la COVID-19.
Est-ce que je peux vous dire que j'ai maintenant le droit d'obtenir un test de diagnostic parce que le gouverneur a dit que tous les gens qui ont participé à des manifestations sont autorisés à obtenir un test et comme j'ai accompagné les manifestants à deux reprises et d'ailleurs j'ai complètement oublié la distanciation sociale mais je dois dire que 99% des manifestants portent des masques dans ces manifestations. En terminant, je vais vous dire que le couvre-feu, 20h ce soir, 20h demain soir, il se termine à 5h du matin. Et à 5h du matin, lundi, c'est la réouverture, la phase 1 de la réouverture de cette magnifique ville de New York. 32 000 chantiers de construction vont reprendre lundi. On estime que 400 000 personnes vont reprendre le travail. Et ça va être le métro. Il y a toutes sortes de mesures. Comment on peut faire la distanciation sociale dans le métro de New York?
C'est exactement ce que je vais vous poser comme question. Mais demain, Richard, on va se tourner demain. D'abord, on va voir comment ça va se passer là ce soir. Vous l'avez dit, couvre-feu de 20h à 5h. Vous nous ferez le bilan de la situation à New York. Mais on va parler aussi de la réouverture. Et avec tous ces chantiers, lundi, ce que ça implique chez vous.
Absolument.
À demain.